Bonjour à tous. On aura l'occasion de se saluer les uns les autres tout à l'heure, juste après le culte. Donc ne partez pas immédiatement, ça nous permet de nous connaître un peu mieux, puis de discuter. Voilà. Frères et sœurs, nous allons parler ce matin de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Alors, peut-être le savez-vous déjà, j'en suis sûr, basée sur la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir sur chaque diapo donc une bande colorée à gauche montrant une croix et le tombeau vide. Et depuis quelques semaines, alors ça me trotte dans la tête et c'est ma lecture régulière en ce moment. Depuis quelques semaines, nous parcourons ensemble, vous savez, certains chapitres du livre du prophète Jérémie. Et nous avons ensemble donc découvert, ou nous redécouvrons ensemble, que son message s'articule. Voilà, je vérifie à chaque fois, mais ça marche. Son message s'articule autour de cette parole clé. Ce sera encore notre fil rouge pour ce matin. Cette parole clé que Dieu lui a adressée dès le début de son ministère, à savoir dans le chapitre 1, le verset 10. Alors je le cite, « Voici, Dieu dit à Jérémie, je t'établis pour arracher et abattre, pour détruire et renverser, pour bâtir et pour planter. » Et faisons suite à cette même affirmation, donc dans le chapitre 1, faisons suite à cette volonté de Dieu de faire ce qu'il a affirmé à Jérémie. Et sur la base du chapitre 7 de Jérémie, Dieu nous a montré, alors c'était une fois précédente, hein, Dieu nous a montré que Dieu veut arracher nos fausses sécurités, nos fausses illusions religieuses, avant de rebâtir avec lui une relation particulière basée sur une foi obéissante. Et il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'applications, beaucoup de leçons à apprendre de ça. Et puis, la dernière fois, nous avons abordé aussi le chapitre 18, où Dieu se montre comme étant le potier, et nous, son peuple, comme l'argile, avec cet objectif de briser ce vase d'argile qui ne lui plaît pas, pour faire à sa gloire un vase qui lui est utile. Parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, ne met pas de pansement sur un argile qui est déformé ou qui est fissuré, mais il veut le refaire complètement. Et donc briser ce cœur de pierre pour en faire un cœur nouveau. Et donc oui, Dieu arrache nos illusions religieuses, brise les cœurs durs avant d'introduire quelque chose de nouveau. Et c'est ce que le chapitre 18 nous avait enseigné. Et aujourd'hui, cela m'émeut un peu parce que nous arrivons, je crois, au summum de cette promesse divine. Toujours basée sur le chapitre 1 du livre de Jérémie, sur cette parole clé, sur ce fil rouge qui va nous accompagner tout le long. Et dans le passage que nous allons lire, et c'est toujours dans le livre de Jérémie que je vous invite à prendre avec moi, au chapitre 31, et vous le voyez s'afficher en bleu, Dieu va mettre fin à l'ancienne alliance qui régissait jusque-là la vie du peuple d'Israël, pour établir une loi nouvelle dans le cœur Et donc ça se trouve dans Jérémie 31. Et là, il n'est donc plus question seulement d'arracher les fausses sécurités que nous avons vues. Il n'est plus question seulement de briser le cœur de Pierre. Ça servirait à rien de nous détruire, n'est-ce pas, pour nous laisser comme ça dans notre pétrin. Non. Dieu veut aller plus loin, c'est-à-dire remplacer l'alliance extérieure, l'ancienne, basée sur des prescriptions écrites, par une alliance intérieure écrite directement, mes amis, dans le cœur, dans l'âme de ses enfants. Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent. Dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance, sous-entendu l'ancienne, que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance, sous-entendu la nouvelle, que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au devant d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront ». Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Oui, cette promesse nous conduit donc au cœur du projet de Dieu. Non plus à travers une religion extérieure inefficace, mais par une transformation intérieure profonde opérée par Dieu lui-même. Et donc, peut-être avant d'aller plus loin, ce serait intéressant de définir ce qu'est ce mot central qu'on a lu à plusieurs reprises, à savoir le mot « alliance ». Alors, au moins dans la Bible, parce que chez les humains, ça veut dire beaucoup de choses, mais dans la Bible, une alliance, c'est un engagement solennel, toujours initié par Dieu, et par lequel il se lie à un peuple pour entrer en relation avec lui en définissant des devoirs, des responsabilités, des conditions pour y rentrer, mais aussi des promesses. Et donc on appelle dans la Bible l'ancienne alliance celle que Dieu a donné à Moïse au Sinaï. Tout le monde le sait. Elle reposait sur un principe clair. Oh là là. Lorsque Dieu a dit ça à son peuple, il devait trembler. Je te bénirai si tu obéis. Mais je te maudirai si tu désobéis. Et là, vous comprenez que c'est terrible. Parce que qui peut dire, durant toute sa vie, j'ai obéi au Seigneur? Alors, allons-nous subir la malédiction de Dieu? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quand Dieu dit « Je ferai avec vous une alliance nouvelle », mais c'est ça qui est quand même particulier, c'est qu'il ne dit pas que l'ancienne alliance est mauvaise. Il n'a jamais dit ça. Hein, vous n'avez pas lu. Il n'a pas dit qu'elle était mauvaise. Au contraire, si nous lisons Romains chapitre 7, verset 12, il est dit que la loi, ou l'ancienne alliance, est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Elle est pleine de lumière. Elle est pleine de promesses, cette ancienne alliance, cette loi. Mais elle révélait quand même un problème profond, à savoir le cœur de l'homme, qui est toujours le même, indocile, désobéissant, naturellement, hein, c'est notre nature. Alors la loi était moralement parfaite, elle était gravée sur des tables de pierre à l'extérieur, elle montrait le chemin à suivre, elle montrait ce que Dieu voulait, ce qu'il attendait de ses enfants, mais elle n'a jamais donné la force d'accomplir ce que Dieu demandait. Parce que le corps de l'homme est toujours le même. Et donc le problème n'était pas la loi, hein, mais le cœur de l'homme lui-même. La loi montre le chemin, mais ne procure pas la force de l'accomplir ou d'y marcher. Il était le peuple d'Israël, mais nous, pareil, hein, incapables d'obéir dans la durée et avec fidélité. On peut obéir à un moment donné, mais pas dans la durée et dans la fidélité. Pas possible. Et d'ailleurs, à ce sujet, le Nouveau Testament nous apporte une lumière vraiment intéressante et même la clé pour comprendre le but pour lequel la loi a été donnée. Est-ce que nous pouvons prendre ce passage dans l'Épître aux Galates ? Ça va être intéressant de le lire ensemble. L'Épître de Galates. Après Corinthiens, au chapitre 3, verset 19. Galates chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi ? Alors je vous épargne la suite. Et on saute au verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi a été comme un précepteur, nous dit ce passage, ou comme un pédagogue, disons certains, c'est pareil. Il agit comme un pédagogue. Et à l'époque, et il n'y a pas encore si longtemps que ça, hein, un précepteur, c'était quelqu'un qui encadrait, qui veillait, qui accompagnait, qui corrigeait un enfant pour son bien et son éducation. Et donc, la loi avait ce rôle de montrer ce qui était bien, ce qui est bien. Donc, elle est sainte, la loi, elle est juste. Et de montrer également et de révéler même le péché, qu'on ne peut pas vraiment l'accomplir dans la durée constamment. La loi montrait aussi le fait qu'elle encadrait la vie des enfants d'Israël, mais sans pouvoir transformer leur cœur, si bien que à un moment donné, ils obéissaient et à un autre moment, ils désobéissaient. Indociles et rebelles par nature qu'ils étaient. Et ne leur jetons pas la pierre parce que nous-mêmes, nous sommes pareils. La loi, oui, révèle ce que Dieu est, c'est-à-dire un Dieu saint, et révèle ce que je suis, c'est-à-dire un pécheur devant le Dieu saint. Mais justement, pour me faire connaître mes failles, mes faillites, et m'amener, donc, comme le dit Galates chapitre 3, à la foi en Jésus-Christ. Est-ce que, frères et sœurs, nous sommes conscients? Ah oui, mais je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait de mal. Non, non. Ma nature pécheresse est là et elle me conduit à pécher contre Dieu, à me rebeller contre lui. Et il y aurait plein d'exemples que nous pourrions donner pour le montrer. Et donc cette rébellion naturelle chez l'homme est ce que Dieu exprime dans le verset 32 de Jérémie 31. Si vous revenez avec moi dans Jérémie 31, il est dit, voilà mon alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître. Ils ont violé mon alliance. Malgré les commandements, malgré les miracles, malgré ce que Dieu leur avait dit, malgré les avertissements, le cœur de l'homme restait le même, rebelle, instable, incapable d'obéir pleinement. Et c'est bien ça le constat, il est juste donc. L'ancienne alliance donnait des commandements, des rites, des ordonnances, et on sait quels étaient ces rites et ces ordonnances, mais elle laissait malheureusement l'homme tel qu'il était. Et c'est-à-dire faible, pécheur, rebelle, inconstant. Et donc, condamné à subir le jugement de Dieu. Et voilà pourquoi dans sa grâce, et pour sauver sa créature, Dieu annonce ici une œuvre nouvelle qui s'est accomplie en Jésus-Christ. Alors vous avez certainement remarqué que dans le texte, Dieu dit qu'il fera une alliance avec la maison d'Israël et de Juda. Alors oui, parce qu'il faut quand même, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, lorsqu'on l'étudie, regarder ce que la parole dit littéralement. Cette promesse est d'abord pour le peuple d'Israël. Malgré leur infidélité, mieux Dieu n'abandonne pas son peuple historique. Et par conséquent, la pleine réalisation de cette alliance nouvelle, elle va s'accomplir dans un temps futur. Et peut-être nous pouvons le lire ensemble dans Romains chapitre 11. Prenez avec moi. Romains chapitre 11, verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu aime son peuple d'Israël malgré ses penchants naturels à désobéir. Et donc ce moment où tout Israël sera sauvé, c'est ce que nous dit le verset 26, tout Israël sera sauvé, eh bien ce moment correspondra au retour de Christ, qui vient bientôt, le retour du Messie promis. Ça interviendra au même moment à la repentance nationale du peuple d'Israël que nous attendons tous finalement, si nous avons compris la parole de Dieu. Et donc une restauration spirituelle profonde pour tout ce peuple. Et ce jour-là, Dieu écrira donc, comme il l'a promis, sa loi dans le cœur du peuple d'Israël, de manière collective et visible. Et pour nous, aujourd'hui, eh bien, nous sommes, si nous nous sommes approchés de Jésus-Christ par la foi, nous sommes par la foi les bénéficiaires actuels de cette alliance nouvelle en Jésus-Christ. Et même un juif aujourd'hui qui se tourne vers Jésus-Christ est au bénéfice, eh bien, de cette alliance nouvelle à titre individuel. Par lui et par le moyen de la foi, nous entrons donc, frères et sœurs, dans cette alliance nouvelle. Nous recevons le pardon, nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons un cœur nouveau, et cela par la puissance de Dieu. Et cela s'est produit, mes amis, à la Pentecôte, à Pâques, et le Saint-Esprit que nous avons reçu a été donné à la Pentecôte, dont nous allons fêter dans 3 semaines, je crois, et bien l'anniversaire. Cette œuvre s'est accomplie, Mais je dois dire, sans nous dire exactement comment Dieu a procédé pour y parvenir. Ben oui. Et lorsque on revient dans Jérémie 31, vous voyez que c'est totalement l'œuvre de Dieu. Notre salut est totalement l'œuvre de Dieu. Je le lis pour vous. Le verset 33 nous dit, d'abord, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. C'est moi qui fais l'œuvre. La première caractéristique, c'est que cette loi est écrite, placée en lui, et non plus à côté, comme c'était le cas avant. La loi de l'amour de Dieu est placée dans le cœur de l'homme. Première chose. Ensuite, il dit, toujours verset 33, je l'écrirai dans leur cœur. Le cœur dans la Bible, c'est, vous savez, c'est le siège de presque toute chose. C'est le siège de la volonté, du désir. C'est le siège de l'intention, de la conscience. C'est par là que l'amour peut agir. Dieu n'a pas dit, vous écrirez, mais il a dit, j'écrirai. C'est moi qui le ferai. C'est lui qui prend tout en main. C'est lui qui grave, c'est lui qui façonne comme le potier, hein. On retrouve tout ça. C'est lui qui imprime donc sa loi et donc sa volonté dans nos âmes. Oui, la promesse de Dieu, c'est la loi dans le cœur, dans une relation vivante, dans un pardon total. Il promet une transformation intérieure radicale parce qu'il écrit lui-même sa loi dans nos cœurs. Et enfin, au verset 33, il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et là, ça change aussi beaucoup de choses parce que Dieu veut avoir avec ce peuple-là que nous sommes aussi une relation particulière et ça ne peut exister que si sa loi est dans nos cœurs. C'est le langage, mes amis, de la communion qui est retrouvée. Elle est réelle, elle est profonde cette fois-ci. C'est plus comme avant. C'est un pardon définitif. Alors, oui, on peut affirmer maintenant que les évangiles, comme la lettre aux Hébreux, proclament d'une manière claire que Jérémie 31 a été accompli en Jésus-Christ. Ah, alors ça, des siècles après. Et c'est ça qui fait de la parole de Dieu la parole inspirée, qui vient de Dieu lui seul. Alors les évangiles d'abord. Alors je prends Luc chapitre 22, verset 20, qui nous dit ceci, c'est lors du dernier repas, et Jésus étant avec ses disciples, leur dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et là, permettez-moi de m'arrêter un instant pour apporter une précision d'ordre théologique, si vous voulez. Les deux mots grecs, et je vous les ai mis en bleu, avec l'alphabet français, pas grec. Les deux mots grecs que Luc utilise pour cette expression nouvelle alliance sont strictement identiques à ceux utilisés dans la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, s'agissant de Jérémie 31. Kainé diatéké. Kainé, la nouvelle, diatéké, alliance. On pourrait dire aussi Nouveau Testament. Testament, alliance, c'est pareil, c'est le même mot grec. Et donc, intentionnellement, et Luc le fait aussi intentionnellement, Jésus reprend directement à son compte le vocabulaire prophétique de Jérémie. Et en train de dire implicitement, Ce que Jérémie a annoncé, eh bien, mes amis, parce qu'il était avec ses disciples, s'est accompli maintenant. Parce que cette coupe qui représente mon sang, c'est cette alliance nouvelle. C'est moi qui l'établis. C'est moi qui l'accomplis dans la réalité. Et donc, ce que Jérémie avait annoncé comme une promesse, eh bien, Jésus le déclare désormais comme une réalité. Depuis la croix. Un autre passage qui l'atteste aussi, c'est celui, je parlais de la lettre aux Hébreux, qui en parle partout dans la lettre quasiment, mais dans Hébreux chapitre 8, versets 7 à 13, on ne va pas le lire, mais reprend mot pour mot ce que Jérémie 31 a annoncé. Mot pour mot. Cet après-midi, si vous avez le temps, vous prenez Hébreux chapitre 8, versets 7 à 13, et comparez avec Jérémie 31, vous verrez que c'est le même texte. Et donc, ça confirme que Jésus a accompli cette prophétie. Le pardon annoncé devient alors réel. Le cœur nouveau devient alors possible. L'esprit promis devient alors accessible. Alors, comparez le. Comprenez l'analogie à la croix. Alors, l'analogie avec Jérémie, chapitre 20, c'est notre fil rouge. À la croix, Dieu crucifie notre justice propre. Il l'arrache à la croix. Il la détruit. Il détruit nos illusions religieuses, renverse notre orgueil. Il a pris tous nos péchés à la croix du calvaire. Mais à la résurrection, Dieu bâtit une vie nouvelle, un corps nouveau, une relation vivante avec lui. C'est ce que Dieu veut faire avec ses enfants qu'il veut sauver. Est-ce que c'est la réalité pour vous ce matin de connaître cette relation nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ? J'espère de tout cœur. Parce que autrement, vous seriez perdu. Vous seriez encore sous le jugement de Dieu. Mais alors, comment cette vie nouvelle peut devenir une réalité? Pour un homme, pour une femme, et la parole de Dieu là est très claire, il y a une condition qui est essentielle. C'est se tourner vers Jésus-Christ par la foi, dans une repentance sincère, pour vivre cette vie nouvelle, recevoir le pardon de Jésus, recevoir l'Esprit, et pouvoir, par la foi, donc, avec ses frères et sœurs, vivre cette vie nouvelle. La Bible nous dit, voilà, Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et encore, Jean chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Recevoir cette vie nouvelle, c'est donc reconnaître devant Dieu son péché. La loi, l'ancienne alliance, me le montre très clairement. C'est abandonner sa vie à Christ, placer sa confiance en lui. Et alors, Dieu accomplit sa promesse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vivre la vie nouvelle. Et là, je vais m'arrêter un instant sur cette diapo. C'est trop important. C'est à ce moment-là que Dieu bâtit, en fait, il plante. C'est Jérémie 1, toujours mon fil rouge. Il plante cette vie nouvelle dans nos cœurs. C'est lui qui a fait cette action, cette œuvre. Mais si Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs, si ma vie est désormais conduite par le Saint-Esprit, alors ça doit se voir par des fruits visibles. Eh bien oui. Jean chapitre 15, verset 5 nous dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, porte alors beaucoup de fruits. » Pas un chouïa, pas un petit peu, hein. Beaucoup de fruits. Et permettez-moi là de dire une chose importante. On ne peut pas vivre cela tout seul. Si je suis convaincu que je suis devenu chrétien ou chrétienne, que j'ai reçu par la grâce la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ, la Bible m'enseigne que je ne peux pas vivre cela tout seul. La vie de la nouvelle alliance n'est pas une vie individuelle. Elle est individuelle, oui, parce que la foi est individuelle. Mais elle se vit dans un corps. La parole de Dieu me dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun dans le corps de Christ a une part à jouer et doit être utile, forcément. » Un membre, en conséquence, ne peut pas fonctionner tout seul dans son coin, séparé du corps, parce qu'à ce moment-là, il ne servirait plus à rien. Et par conséquent, notre attachement à une assemblée, une église locale, devient normal et indispensable, comme la parole de Dieu me l'enseigne. Par exemple, si je prends... Hébreux chapitre 10, verset 25, ce verset me dit de ne pas abandonner notre assemblée. Sous-entendu que le chrétien fait déjà partie de l'assemblée pour éventuellement pouvoir l'abandonner. Pour la parole de Dieu, c'est donc une évidence que un chrétien qui reçoit la vie nouvelle est rattaché à une assemblée, à un corps local. Et c'est simple à comprendre, finalement, quand on y réfléchit un peu. Parce que vous ne pouvez pas porter les fardeaux des autres, ce que la parole de Dieu enseigne, si vous ne connaissez pas grand monde ou personne. Et on ne peut pas portez les vôtres si on ne vous connaît pas non plus. Vous ne pouvez pas encourager votre frère, votre sœur, si vous ne savez pas qu'il est votre frère ou qu'il est votre sœur. Si vous n'avez pas de lien fraternel, relationnel avec eux. Et nous de même, nous ne pouvons pas avoir cette relation avec vous. Vous ne pouvez pas prier pour les autres si vous ne partagez pas leur combat. Leur lutte spirituelle. Et on ne pourra pas prier non plus pour vous si on ne connaît pas vos besoins. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur comme la parole de Dieu l'enseigne correctement, j'allais dire, si vous restez spectateur ou consommateur, comme c'est trop le cas aujourd'hui dans les églises. Alors que Dieu nous demande d'être acteurs, chacun pour sa part, dans son Église, en mettant ses capacités et les dons qu'il nous a donnés par son Esprit que nous avons reçus dans cette vie nouvelle, eh bien, au service des autres, et en particulier des frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est comme un bout de bois que, on a dans un feu parmi tous les autres bouts de bois, eh bien, ils brûlent tous. Mais si je retire un bout de bois, il va se dessécher et ne sert plus à rien. C'est l'isolement spirituel est la pire des choses qui soit et qui contribue malheureusement à éteindre la vie spirituelle. Ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas sa volonté. Si Dieu a écrit sa loi dans notre cœur, alors nous aurons naturellement le désir d'aller vers les autres, de les servir, de les encourager, de participer à la vie de l'Église. Et aujourd'hui, beaucoup se réclament du nom de chrétien. J'entends ça régulièrement, même autour de moi. Ma foi est personnelle, je la vis seule avec Dieu, et ça me suffit. Mais la Bible ne connaît pas ce christianisme-là, c'est un faux évangile. Le diable veut vous l'insuffler, résistez. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Quel est le test ? C'est quoi le test ? 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Parce que nous aimons les frères. Mais si j'en ai pas, si je ne sais pas qui ils sont, mais je ne peux pas mettre l'amour de Dieu en action comme la parole me le demande. Alors si Dieu a placé sa loi, la loi de l'amour dans notre cœur, il nous conduira, il vous placera, oui, dans un corps. Et Dieu vous utilisera pour être, j'en suis persuadé, un canal de bénédiction également pour les autres. Et eux le seront pour vous-même. Et c'est ça qui est formidable. Rien n'est théorique là-dedans. Tout est pratique. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est vraiment pratique. Ça produit en nous l'amour fraternel, le désir de communion, le besoin de marcher ensemble. La parole me dit dans Hébreux 13, verset 1, persévérez dans l'amour fraternel. Et ça, ça ne se limite pas au temps du culte dominical. Et ça se vit aussi dans des moments simples, en dehors du dimanche. Des temps partagés dans des occasions particulières où on apprend à se connaître, à s'encourager. On apprend à s'aimer concrètement. Et c'est pour ça que nous prévoyons ici assez régulièrement des repas fraternels. Et puis a été prévu, comme ça a été dit tout à l'heure, eh bien, voilà, une journée ensemble de sortie à Barbizon le jeudi 14 mai. Jour de l'Ascension, ce n'est pas simplement une sortie. C'est une expression de la vie de l'Église locale. Un moment pour se rencontrer autrement, pour avoir le temps là de pouvoir échanger, discuter, être les uns avec les autres, partager, écouter, prier, pourquoi pas aussi, avoir ce temps-là. Manifester cette vie nouvelle que Dieu a mis dans nos cœurs. Alors ne voyez pas ça comme une option, quelque chose de secondaire. Non, c'est une occasion, une opportunité concrète que Dieu nous accorde dans sa grâce et que Dieu veut que nous vivions. Voilà. Ça se manifeste dans des relations vivantes. Alors oui, Dieu agit encore aujourd'hui selon Jérémie, chapitre 1, verset 10. Il arrache, il détruit, mais c'est toujours pour bâtir quelque chose de nouveau, une vie nouvelle. Alors, j'aimerais m'adresser à nous qui sommes devenus chrétiens, par la grâce de Dieu, qui avons reçu cette alliance, cette vie nouvelle en Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas lui dire, Seigneur, transforme mon cœur. Fais-moi vivre par ton esprit. Et il le fera si ma prière est sincère. Combien de nous avons pu expérimenter cela? Laissons l'esprit produire en nous l'amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous dit Romains chapitre 5. Laissons l'esprit produire la sainteté, l'obéissance, la joie, et exprimer tous ces fruits qui sont les fruits de l'esprit à travers notre vie et en relation les uns avec les autres. Et peut-être à vous aujourd'hui qui restez encore dans l'incrédulité, peut-être il y en a quelques-uns, dans l'indifférence à cette vie nouvelle. J'ai moi-même des enfants. Certains sont dans l'indifférence. Ils ne sont pas hostiles, mais dans l'indifférence. Ils sont condamnés à subir le jugement de Dieu. Comme vous, ce matin, si vous êtes indifférent à l'appel de Dieu à venir à Jésus-Christ dans la repentance et la foi. Mais Jésus est venu, il est mort pour expier les péchés des hommes, la croix comme la résurrection. Et nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, et ce matin, et peut-être dimanche après dimanche, nous le répétons souvent, Dieu vous appelle à reconnaître votre péché devant Dieu, à vous tourner vers Christ par la foi. Et si Dieu parle à votre cœur ce matin, ne résistez pas, venez à lui. Et donc, Dieu écrit aujourd'hui sa loi dans les cœurs. C'est la conclusion, frères et sœurs. Puisque Dieu a promis, et il l'a fait, d'écrire sa loi, la loi de l'amour de Dieu dans nos cœurs par Jésus-Christ, alors abandonnons toute forme de religiosité extérieure pour vivre pleinement, mes amis, ensemble, cette vie nouvelle, dans l'obéissance, dans l'amour et dans la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons, dans la prière, demander cela à notre Dieu et il agira en conséquence, je vous l'assure. Que le Seigneur nous bénisse tous.